RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lahaie Night Show.
Bonsoir à tous et accrochez-vous puisque c'est notre dernière ce soir, notre Lahaie World Show se termine. Et donc, je voudrais quand même vous dire que j'ai pris un grand plaisir à vous offrir chaque nuit ces moments tout à fait conviviaux. Et j'avoue que je serais heureuse quand même de me coucher un peu plus tôt demain. Alors pour cette dernière, vous allez retrouver des complices que j'aime particulièrement bien et je suis sûre qu'ils vous plaisent tout autant. D'abord Trinidad, une actrice, humoriste, chanteuse qui nous avait été présentée par Pascal Neveu, si je me souviens bien, il y a quelques semaines.
Tout à fait.
Et puis notre deuxième femme, vous la connaissez sans doute mieux puisqu'elle fait partie des grandes gueules, c'est Fatima Haït-Bounoua qui est avec nous également.
Bonsoir.
Et puis notre homme ce soir, c'est un homme que vous connaissez aussi très bien puisqu'il vient souvent vous donner des conseils précis pour votre vie de tous les jours, c'est notre coach Christophe Médici. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avant de vous présenter nos invités, eh bien, les sujets de ce soir. En sujet principal, on va évoquer les méfaits de la pornographie et peut-être essayer de donner des pistes, quelle serait la bonne éducation sexuelle. Nous aurons également, Nous aurons, j'ai testé un jeu Action Vérité que j'ai également sur la table. En love coaching, comment évoquer un besoin de plus de liberté dans son couple. En love conseil, je vous proposerai de danser pour muscler votre périnée. Et en lecture érotique, j'ai choisi un livre qui était sorti déjà il y a quelques années qui s'appelle J'ai joui. C'était aux éditions Anne Carrière. Alors, Trinidad, merci d'être venu nous voir.
Bonsoir, merci.
Alors, vous serez au Festival d'Avignon jusqu'au 30 juillet, hein, c'est
oui,
bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Toujours avec ce spectacle et pendant ce temps, Simone Veil.
Je continue mon petit bâton de pèlerin.
Laquelle, Simone?
Avec un V, celle de l'avortement.
Oui. Ah, c'est la philosophe aussi.
Oui. Et ouais. Ce sera au Théâtre des Trois Soleils, donc... à Avignon. Fatima Haït-Bounoua, vous êtes professeure de français hein, et grande gueule sur RMC, toujours.
Oui, avec toujours du plaisir et heureuse de venir à un autre moment.
Ça change, c'est sûr. Christophe Médici, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes docteur en psychosociologie, formateur en communication. Votre dernier livre, c'est Homo Connecticus aux éditions
d'Angle,
c'est ça. D'Angle. Voilà. Alors, on va évoquer la pornographie. Alors, c'est toujours très compliqué. Pendant longtemps, moi, j'avais envie de ne jamais dire de mal de la pornographie parce que je déteste ces personnes qui ont fait quelque chose puis qui après crachent dans la soupe, si je puis dire. Et puis, je viens d'accepter d'être la marraine d'une association qui s'appelle Innocence avec un E, hein, innocence.org, où justement on va essayer de ne pas critiquer la pornographie, mais de faire tout pour que les parents sachent quoi faire pour que les enfants ne tombent pas sur des images de pornographie très jeunes. Parce que c'est quand même de pire en pire et qu'il y a quand même, c'est le premier méfait aujourd'hui de la pornographie évidemment. Voilà. Alors, c'est pas si simple que ça, puisque les enfants maintenant ont tous des smartphones, sont souvent plus doués que nous pour aller sur Internet. Alors, est-ce qu'il faut parallèlement une éducation sexuelle plus intense? Fatima, vous avez forcément un avis.
Ah oui. Le grand défi, c'est que pour nous, enfin on va dire, moi à 15 ans. Ou ceux qui avaient 15 ans à mon époque, pourtant c'est pas, j'ai 36 ans donc c'était pas si loin que ça. On devait faire un effort pour accéder au porno. Vous voyez, il fallait pour un garçon aller acheter un magazine, aller acheter la cassette parce que c'était plus cassette. Bon, il y avait toute une démarche à faire. Maintenant c'est l'inverse. Il faudrait presque faire une démarche pour échapper au porno, puisqu'il suffit d'allumer l'ordi si les parents n'ont pas mis le filtre parental pour avoir une fenêtre pop-up qui s'ouvre. On peut regarder un film en streaming et avoir une image de porno sur le côté. Donc pour les jeunes, là où c'est compliqué, c'est que le porno comme libération sexuelle ou moyen d'excitation, sans problème, c'est enfin comment dire, c'est une évidence maintenant pour nous. On a pu à se battre pour ce droit-là, enfin on va dire. Mm-hmm. En revanche, là où c'est embêtant avec les petits que j'ai, c'est que souvent, par exemple sur le poil, beaucoup d'enfants, de jeunes, d'ados, ont l'impression que avoir des poils, à certains endroits, ce n'est pas normal ou c'est sale parce que leur regard s'est habitué à un certain type de corps. Donc des très gros seins, un corps imberbe, une taille très fine, des fesses rebondies. Donc les filles quand elles ne correspondent pas trop à cette image-là, c'est compliqué. Et les garçons aussi ont des complexes finalement.
Ils peuvent même avoir très peur si tout d'un coup ils se retrouvent dans le lit avec une fille qui a des fois l'impression qu'elle est pas normale.
En plus, ce qui est vrai, c'est qu'avec les digital natives, parce qu'il y a bien maintenant une césure, il y a digital migrants et digital natives. Les digital natives, c'est ceux qui sont nés alors qu'Internet existait déjà. Et nous, on n'en est pas. Nous, on est des digital migrants. On est nés avant Internet. Et c'est vrai que le porno, Brigitte, vous le disiez, il est partout.
Avant le portable.
Oui. Le porno, il est partout, tout le temps, sur toutes les toiles, à n'importe quel moment, 24h/24, et gratuit. En plus, il est gratuit. Et donc, le problème qui se pose,
c'est aussi. Et en plus, ce sont des scènes parfois qui sont très violentes.
Et ça devient un modèle identificatoire.
Il est devenu violent.
Puisqu'on parle d'éducation, ça devient un modèle identificatoire pour des pré-ados ou des jeunes en puberté. Qui disent, alors faire l'amour, c'est faire l'amour, comme pour le garçon, par exemple, comme Rocco Siffredi. Et les Anglais, ils ont deux termes, hein. Ils disent to have sex and make love. Ils font la distinction. Alors, c'est vrai que nous aussi, il y a aussi baiser et faire l'amour. Faudrait déjà, peut-être, en termes d'éducation, parce qu'on est là sur le problème de l'éducation, essayer peut-être de montrer qu'il y a des différences entre faire l'amour et ce qu'ils voient. C'est pas faire l'amour.
On peut pas
forcément rendre
les enfants responsables de ce à quoi ils sont confrontés. Je pense que le travail est à faire en amont. Déjà, c'est expliquer l'acte sexuel autrement qu'en prévention ou en danger ou en maladie, parce que ça on l'a perdu avec l'arrivée du sida il y a quelques années, et je pense aussi que c'est vraiment expliquer ce qu'est un corps et déjà soi-même connaître son corps, parce que plus on connaît son corps, plus on se respecte, et ça vaut pour tout, pas simplement pour la sexualité, ça pour la nourriture, pour le voilà. Et je pense que c'est ce travail-là qui est à faire. Alors est-ce qu'il est à faire par les parents, est-ce qu'il est à faire par l'école, est-ce qu'il est à faire par la famille autour, par les amis, je sais pas, mais c'est vraiment ça qu'il faut offrir aux enfants. C'est
très juste. Ouais.
Il y a l'éducation sexuelle, il y a des cours entre guillemets, ils voient des choses en SVT où ils peuvent aborder un aspect, on va dire technique, la reproduction et tout ça. Il y a des entretiens avec l'infirmière scolaire. J'ai assisté à ça. Les enfants peuvent poser des questions, mais au-delà de ça, c'est tous les adultes qui sont autour des enfants, c'est-à-dire libérer cette parole. Qu'il n'y ait pas de honte, que quand un enfant a vu une image ou a une question, qu'il ait l'interlocuteur, qu'il pouvoir parler sans être jugé. Parce que là, par exemple, nous, ce qu'on a beaucoup en ce moment, c'est des jeunes filles qui ont envoyé des photos d'elles nues, par exemple, parce qu'on leur apprend à être bonnes avant d'être belles. Avant d'être belle. Donc l'idée, c'est j'ai envie de plaire à un homme, ce qui est normal quand on se découvre. Et tiens, ça peut l'exciter. Donc elles vont essayer ça. Et le garçon, après, utilise l'image ou la diffuse. Et on a l'humiliation sur Internet, des choses comme ça. Et ça, c'est déjà gagné quand la petite vient nous voir pour nous le dire, pour dire que ça se passe. Parce que là, on peut intervenir comme adulte. Mais très souvent, c'est en secret.
Et c'est tout le problème du harcèlement dont on a déjà parlé.
Et il y a des suicides liés à ça. Beaucoup de suicides ou des drames.
On a parlé déjà. C'est-à-dire que le harcèlement scolaire, j'en parle dans mon livre Homo Connecticus, se continue sur Internet, continue énormément par du bashing.
Et la gamine,
à un moment donné, si elle publie quelque chose sur Internet, effectivement, ça peut être des images comme ça, ça peut être autre chose. Et c'est horrible.
Peut-être aussi arrêter de nier que les adolescents ont une sexualité. Peut-être accepter qu'ils ont une sexualité, les accompagner, plutôt qu'être dans le déni de cette sexualité, faire comme si ça n'existait pas, parce qu'on arrive, je pense, à des dérives.
Et puis voir, avec les petites 13 ou 14 ans, il y a certains mots. Par exemple, ils vont connaître les mots gangbang, ils vont connaître le mot plein de mots comme ça. Ils vont connaître le mot gangbang avant leur premier baiser. Voilà, on en est là en fait. Ils n'ont jamais embrassé une fille et vont avoir vu même sur Internet des scènes, une autre sexualité plus libre encore, mais avant même les premiers pas en fin de compte, comme si on leur ils savent même pas mettre leur kimono et puis on leur montre des scènes de ceinture noire.
En même temps, je pense qu'il faut pas dramatiser non plus que nécessaire. Ils voient des films très violents et ça n'empêche pas pour autant qu'ils peuvent en parler.
Ah oui, pour moi, s'ils ont un interlocuteur, tout passe. Mais il faut avoir un interlocuteur adulte.
C'est pour ça que je liais justement le sujet entre les méfaits de la pornographie et la bonne éducation. Moi, je parle plutôt d'éducation affective d'ailleurs que sexuelle, parce que de toute façon, on va pas pouvoir interdire tous ces sites. C'est impossible. Donc, il faut travailler en amont. Et ça, c'est dans la...
D'ailleurs, avec Internet, Brigitte, ce qui est intéressant, tous les sociologues des médias le disent, c'est que, d'ailleurs, quand on voit ce que regardent les enfants, les ados ou les pré-ados, et même les pré-ados, ils regardent des thèmes, là, au-delà même du problème de la sexualité, qui sont normalement des sujets et des thèmes pour les adultes. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, les générations d'aujourd'hui ont accès, vous le disiez tout à l'heure, hein, à ce que nous, quand on était pré-ados, n'avait pas accès. On sait très bien que des images que voient les enfants. Alors, le problème de l'éducation, il est comment un parent peut-il faire pour éduquer à la sexualité son enfant?
C'est pas forcément les parents. C'est pas forcément les parents. C'est compliqué pour les parents.
C'est compliqué pour les parents.
Oui, mais en même suffit. Parce que c'est ne pas se sentir jugé. Moi, je sais que mes élèves, alors en dehors des cours, ça peut être à la récréation ou comme ça, en discutant, vont me parler de choses parce qu'ils savent très bien que je ne vais pas les juger. C'est-à-dire la petite qui va me dire, ben voilà, il y a des photos de mes fesses que ma soeur va faire passer. Je vais pas lui dire, comment ça se fait que tu l'as envoyé? Je vais pas du tout être dans le jugement de moral.
Bien sûr.
Je vais être dans le concret. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Je vais après convoquer le garçon et on va voir ensemble. Donc, c'est se sentir libre de parler sans jugement moral. Donc, c'est rarement avec les parents. Pour aborder la sexualité, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un interlocuteur adulte, un espace de parole. Voilà, ça, tout de suite, ça sauve pas mal de gens.
Oui, et peut-être qu'il y a aussi une question plus essentielle à se poser. Est-ce que finalement, notre société n'a pas un peu loupé le coche quand on parle de sexualité, de sexe? Voilà, moi je, par exemple, je me pose la question. Il y a une loi qui interdit, qui pénalise maintenant les clients des prostituées. Et il y a aucune loi qui interdit, par exemple, qu'on diffuse des images pornographiques de femmes qui ont des triples pénétrations ou des choses comme ça. Bon, finalement, qu'est-ce qui est pire? On peut se poser la question.
Donc. C'est surtout, la question de l'image de la femme. C'est l'image de la femme, on repart en arrière.
En ce qui concerne la pornographie, oui on a fait un grand écart en arrière.
Mais je vois que tout est gratuit. Je veux dire, c'est des milliards de sites qu'on parle.
Oui, non, mais c'est ridicule ce que vous dites, parce qu'évidemment que c'est pas gratuit. Vous imaginez bien que...
Non, mais je parle pour les gens qui consomment, vous dites sur Internet.
J'entends bien, mais derrière, c'est un plus gros marché.
Ah, voilà, pour ceux qui font le business, bien sûr. Mais la personne qui sur Internet, que ce soit YouPorn et Tutti Quanti,
parce que quand
ça s'achetait les cassettes, hein, qu'il y a 30 ans avant Internet.
Oui, mais c'est vrai que par exemple, dans le porno des années 70, il y avait quelque chose qui était presque
libéral.
Et puis ludique,
il y avait surtout, et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, il y avait surtout un espace pour la fantasmatique. Alors qu'aujourd'hui, et c'est vrai, quand je parle des méfaits de la pornographie, moi j'entends ces hommes qui se masturbent 3 minutes devant des images pornographiques et qui ne sont plus capables de se masturber autrement parce qu'ils n'ont plus aucune fantasmatique. Et les films avant laissaient la place à la fantasmatique. Et je crois que le sexe sans fantasmatique, et ben c'est le sexe des singes.
C'est pour ça que quand vous avez commencé en disant voilà, critiquer le porno, j'ai pas envie que... Au contraire, moi je trouve que vous défendez le porno là. C'est-à-dire qu'on défend le porno.
Et peut-être que je défends la pornographie, parce que le porno, c'est peut-être ce qui est aujourd'hui.
Oui, voilà. Oui. On défend.
Aujourd'hui, vous appelleriez ça le porno, en fait. Les YouPorn, tout ça.
Peut-être que c'est la.
Ou les gonzos, le côté, il n'y a plus de scénario non plus, et on est dans la consommation, en fait. Voilà. On est passé de la pornographie à un truc de consommation rapide.
Absolument.
Et de quelque chose qui servait le désir, le plaisir, l'excitation, la liberté sexuelle
et qui libérait,
à quelque chose qui enferme, soit dans des normes, dans une façon de faire du sexe, et des gens qui ont du mal après. Mais c'est dans la vraie vie.
Ça devient le référent, en fait.
C'est terrible.
Ça devient le référent. C'est-à-dire que n'ayant plus de place au fantasmatique, c'est la norme, c'est ça qu'il faut faire.
Et ça devient une sexualité anxiogène, puisque la performance est...
C'est ça. C'est quelque chose de technique et de performance, et le plaisir ou le regard sur soi-même, qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, finalement, on s'oublie dans l'image. Quoi.
Donc c'est vraiment un véritable débat de société. Il est loin d'être
chacun. Vous avez raison de vous engager dedans. Je pense que, comme Ovidie qui avait fait ce documentaire, là, Quoi rêvent les jeunes filles sur les digitales natives, où elle suivait des jeunes filles, une jeune fille qui se mettait en scène en disant, c'est chouette, elle est libérée sexuellement, elle s'aime. Et à la fin, on se rendait compte que cette fille ne pensait pas du tout à son propre plaisir. Elle était que dans la projection, que dans l'autre. Hein. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Et elle avait fait d'elle-même un objet de consommation, finalement.
Et l'autre dérive, c'est que, enfin, il y a eu aussi un beau documentaire d'Alexandra Lévesque sur la pornographie, c'est qu'elles font ça pour payer leurs études. Et quand on leur dit qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que après vous avez envisagé me marier, faire des enfants. Donc, mais à ce moment-là, elles le font pour payer des études. Donc il y a vraiment une déviance. Je pense qu'il y a d'autres moyens de toucher les bourses en fac.
Toucher les bourses.
Touchons les
on
bourses.
Touche les bourses.
On est d'accord. Allez, on va écouter maintenant Thomas qui avait fait l'amour dans le train et Marc dont la femme avait décidé de le quitter. J'étais avec Françoise Saint-Père.
RMC. Vous aimiez les femmes avant? Vous allez les adorer.
Vous avez 30 ans et vous êtes avec une femme depuis 14 ans, avec une femme qui est possessive.
Tout à fait, ouais. Bon, nous avons deux enfants, le troisième est en route. Et c'est vrai que depuis maintenant quelques mois, notre relation devient de plus en plus difficile. C'est vrai qu'hier soir, elle m'a annoncé qu'elle voulait divorcer, alors qu'elle est enceinte quand même du troisième. C'est vrai que notre vie, bon, sexuellement, c'est vrai que maintenant, ça devient, c'est très très calme. C'est très très calme, beaucoup, beaucoup plus calme qu'auparavant.
Elle désirait trois enfants, j'imagine.
Elle désirait trois enfants, oui, tout à fait.
Elle désirait trois enfants. Vous avez rempli votre contrat, Marc.
Oui, voilà, mais ça embête un petit peu. Après, c'est vrai que, bon, pour tout vous expliquer, bon, c'est la seule femme que j'ai connue. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, je pense que aussi ça doit jouer par rapport à ça. Parce que même moi, c'est vrai que je pense aussi qu'il va y avoir des torts par rapport à ça.
Non, mais vous l'aimez profondément, vous n'avez pas envie de la perdre, vous n'avez pas envie de casser votre famille. Je crois, Marc, que vous avez affaire à une femme qui ne se rend absolument pas compte de ce qu'elle vous fait subir et qui est dans un processus très classique qui a besoin d'un homme pour avoir les enfants.
Un géniteur, oui, tout à fait.
Et une fois qu'elle a ses deux ou ses trois enfants, elle a tendance à considérer qu'elle n'a plus besoin de l'homme. Alors, comment faire? Vous ne pourrez pas lui expliquer parce qu'elle n'est pas en mesure d'entendre son processus.
On n'a aucune communication.
Alors,
commence à parler, c'est des grands cris dans la maison.
Exactement, parce que vous appuyez là où ça fait mal.
Est-ce qu'elle vous reproche quelque chose?
Si vous voulez, j'ai un travail où je travaille environ 12 à 14 heures par jour, si vous voulez, pour subvenir aux besoins de ma famille, parce que j'estime que c'est mon rôle. Elle me reproche d'arriver tard le soir et ainsi de suite. Mais c'est pour gagner ma vie.
Non mais Marc, quand on veut abattre son chien, on lui reproche d'avoir la rage. On peut toujours trouver quelque chose à reprocher. Non, sincèrement, la seule marge de manœuvre que vous avez, écoutez bien, hein, c'est de dire ok, je conçois que tu as envie de divorcer et tu as tout à fait le droit et pourquoi pas. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse le point avec un spécialiste du couple. Et c'est comme ça peut-être que le spécialiste pourra l'aider à ouvrir les yeux. Parce que vous n'y arriverez pas.
Le problème, si vous voulez, c'est pour ça que je vous écoute énormément et je lui en ai parlé il y a environ 15 jours de ça par rapport aux tensions qu'on peut avoir dans le couple. Je lui ai dit que moi j'aurais aimé qu'on aille voir un spécialiste ensemble pour que notre couple puisse perdurer.
C'est ça l'erreur, c'est que vous lui avez dit j'aimerais qu'on aille voir quelqu'un pour que notre couple puisse perdurer. Donc vous avez été contre son avis. Vous voyez.
Elle veut pas.
Mais oui, bien sûr qu'elle veut pas puisqu'elle veut divorcer. C'est pour ça que je dis bien, écoutez bien ce que je vous dis, acceptez le divorce, mais demandez-lui juste des consultations auprès d'un spécialiste pour comprendre, pour que la prochaine fois, vous inventez un bobard, hein, je sais bien que c'est pas ce que vous pensez, pour que votre prochain couple, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Et comme ça, elle va accepter de rencontrer quelqu'un, et peut-être qu'à ce moment-là, cette personne-là pourra aider votre couple à s'en sortir. Vous comprenez la différence?
Ouais, je comprends rien.
Il faut absolument ne pas aller contre elle. Plus vous allez aller contre elle, plus elle va réclamer le divorce et puis une pension alimentaire. Remarquez là, vous pourrez continuer à travailler 12 ou 13 heures par jour.
Ouais.
Oui, et puis dans ce genre de schéma, si jamais vous essayez à toute force de garder votre couple, moi j'en ai connu comme ça, elle se refusera complètement à vous et j'ai connu des hommes qui ont passé 12-15 ans avec une femme à côté qui était raide comme une planche et qui refusait qu'on les touche, donc c'est pas une vie.
Ça commence à faire un sourire.
Marc, je suis désolée de vous dire ça parce que j'aimerais tellement vous dire le contraire, mais actuellement vous avez une ennemie face à vous.
Donc,
Donc il faut.
Ça fait mal au cœur. Hein.
Mais oui, c'est terrible.
Pour sa famille.
Marc, c'est d'autant plus terrible que c'est pas bon pour ses enfants, c'est pas bon pour elle non plus, parce que derrière ça, il y a beaucoup de souffrance. C'est une femme qui n'est pas épanouie, qui pour réagir comme ça. Mais en tout cas, vous avez une ennemie, et le seul moyen de faire la paix, c'est d'être malin, d'être plus malin, et de ne pas l'attaquer de front.
Ouais.
D'accord. Et je vous souhaite bon courage. Parce que je suis sûre que vous êtes certainement un bon mari et un bon père. Bon courage.
Merci beaucoup.
Bonjour. Je ne sais pas si on dit Ronan ou Ronan, excusez-moi.
On dit Ronan. Bonjour,
on dit Ronan,
bonjour,
pardon.
Françoise.
Bonjour.
Bonjour. Donc en fait, oui, je souhaitais parler...
de libertinage.
J'étais victime en fait de tromperie. C'est suite à ça que j'ai goûté aux joies du libertinage, on va dire. J'étais avec une personne depuis 8 ans, et en fait une personne qui m'aurait quitté si j'avais trompé, alors que je n'ai jamais bougé une oreille puisque je suis quelqu'un d'assez fidèle et réservé. Et il se trouve que en fait c'est elle qui m'a trompé. J'ai découvert ça l'année dernière. Et on avait deux enfants, on a toujours deux enfants. Et donc je me suis séparé. Depuis que je suis célibataire, j'ai passé une bonne et grosse période de dégoût, on va dire. Et ensuite je me suis dit, maintenant que je suis libre à 40 ans, pourquoi pas essayer le libertinage. Voilà, donc je me suis rendu en club. Moi je ne suis pas allé très souvent, j'y suis allé 4 ou 5 fois. Et voilà, ça m'a redonné un peu confiance en moi. Les premiers essais n'étaient pas super concluants. J'avais pas vraiment de sensation, puisque je suis quelqu'un qui a besoin de séduction, de rencontrer des gens, d'aller directement dans le vif du sujet. C'était pas forcément évident au départ. Et puis depuis quelques temps là, j'y ai un peu pris goût. J'ai rencontré des gens aussi très ouverts d'esprit qui m'ont avec qui j'ai discuté, parce qu'on ne fait pas que forcément que consommer. On peut discuter avec des gens très ouverts d'esprit, et c'est une expérience très intéressante, quoi.
Oui, ce qui est pas mal en ce qui vous concerne, Ronan, c'est que quelque part la qualité des libertins, c'est qu'ils sont en général assez ouverts aux expériences multiples, et comme visiblement vous avez du mal à la pilule passe mal, si je puis dire.
Oui.
Ça a certainement dû vous aider, oui.
Oui, ce sont des gens qui sont très tolérants, très ouverts, donc ça vaut la peine de parler avec eux.
Il n'y a pas de service d'ordre, pas de videur en boîte échangiste, parce que généralement les embrouilles en boîte, c'est plus des histoires de mecs et de nanas. Tandis que là, il n'y a pas de jalousie, après, bon, il y a des personnes plus ou moins glauques, mais il y a vraiment des personnes très sympathiques. J'ai été initié par un couple qui était vraiment, vraiment très bien, qui ont fait ça tout en douceur. Et voilà, et je me suis dit, avant de retomber amoureux, parce que je suis...
Vous n'êtes pas prêt pour retomber amoureux, ça c'est sûr, mais ça va venir, ça viendra, ça finira par venir.
Voilà.
Mais là, au moins, vous vous êtes remis le pied à l'étrier, comme on dit.
Exactement, ça m'a redonné confiance en moi, et ça m'a inspiré pour des textes, puisque j'écris beaucoup, j'ai retrouvé des sensations, et j'ai passé cette période des dégoûts, et voilà, je voulais dire que c'était un monde, paradoxalement, ça m'a semblé plus sain de faire l'amour avec la femme d'un homme qui est consentant, plutôt que de tromper quelqu'un, comme j'avais été trompé, quoi. Voilà. Je sais pas si ça fait.
Oui, bien sûr, mais c'est la grande théorie des libertins, de toute façon. Mais bon, vous savez, ce qui est drôle, c'est que ça correspond bien à ma philosophie, et du moins à ce que je pense, c'est que très souvent, les libertins sont finalement des êtres assez possessifs.
Oui.
Et en fait, ils se trompent pas, puisqu'ils se...
Ils se regardent, donc voilà, ils gardent toujours un œil sur l'autre, finalement. Hein. Donc moi, je suis d'accord avec vous, c'est un élargissement d'un couple possessif. Mais c'est en fait une possession absolue, puisqu'on voit même l'intimité d'une femme faisant l'amour avec un autre homme que soi, quand on est le mari, et inversement, quand on est l'épouse. Donc, mais il n'empêche que pour vous, c'est une bonne expérience, et puis qu'il y a aussi des gens célibataires qui vont dans les clubs. Il n'y a pas que des... Voilà, il n'y a pas que des couples.
Ça fait beaucoup rire certains de mes amis qui sont au courant, puisque pour eux j'ai créé le CEPS, en fait pour eux c'est le club des échangistes tout seul.
Et rien ne vous empêche, si une célibataire dans un club vous plaît, de lui dire ça me fait plaisir qu'on prenne un verre ensemble après, et vous aurez déjà une intimité forcément, puisque vous l'aurez connu en club, et peut-être que ça sera plus facile pour vous.
Et vu que j'ai pas forcément le temps de faire des rencontres et le tempérament de faire des rencontres, d'aller directement là-bas, même si je suis réservé là-bas, on n'est pas obligé de consommer, comme je le disais, et généralement c'est les femmes intéressées font le premier pas, et si je suis intéressé aussi, voilà, ça, y a aucune obligation. Et ça me va très bien comme ça pour l'instant, quoi.
Oui, mais très bien. Bon, écoutez, vous savez, Ronan, il faut que chacun trouve son mode d'emploi. Vous l'avez trouvé pour l'instant, et
même si au départ c'était pas, voilà, je me disais, le sexe pour le sexe, c'est pas vraiment mon truc, mais on trouve toujours des atomes crochus, quoi, avec certaines personnes.
Vous savez, le sexe pour le sexe, qu'est-ce que ça veut dire, hein?
Oui, parce qu'il suffit qu'on parle après, et puis on trouve la personne très sympathique.
Merci en tout cas de ce témoignage, Ronan. Bonjour Thomas.
Bonjour Brigitte. Alors moi j'ai la nostalgie en fait des
trains avec compartiments, ouais. Oui bien sûr.
Voilà,
oui.
Des trains compartiments où qu'on utilisait ces fameux trains de l'armée comme on disait à l'époque.
Mais vous savez bien qu'aujourd'hui c'est toujours les grandes partouzes, donc c'est un grand wagon, tout le monde est ensemble.
Bah, puis tout le monde se fait la gueule, hein. Je peux vous le dire, ça fait 22 ans que moi je fais la navette en TER et ça s'est pas amélioré. La convivialité était bien plus présente lorsqu'on rentrait dans ces compartiments. Et
oui.
Pour tout vous dire.
Parce
qu'elle était tellement présente que lorsque je suis allé m'inscrire à la fac il y a quelques années déjà, j'ai pris le train donc vers chez moi, un train de nuit qui passait vers 23h30. Et malheureusement, à cette heure-là, il y en a beaucoup qui dorment déjà et qui s'allongent dans les compartiments. Mais pas pour faire des choses coquines, mais pour dormir. Et moi, je monte, donc pas de place. J'ai dit tant pis, je reste dans le couloir. On verra bien une fois arrivé à Lyon ou à Avignon s'il se libère des places. En attendant, tu t'assois sur ton sac et tu laisses passer le temps. Et à mon grand plaisir, une jeune fille est sortie d'un compartiment en me disant « Mais dans notre compartiment, il y a une place, si tu veux. » Déjà, elle me tutoyait sans me connaître, c'était quand même déjà au
niveau d'un bon présage. Oui.
C'était un bon présage. Donc, je dis « Ben oui, volontiers. » Donc, je rentre dans le compartiment et sur la banquette en face de nous, puisqu'elle m'avait cédé à peu près la moitié de sa banquette, effectivement, il y avait un militaire qui était en permission, je l'ai su un petit peu après, qui était en train de fricoter avec sa copine. Et je pense qu'elle, il lui manquait un partenaire, donc je me suis enhardi.
Vous êtes dévoué.
Ouais, voilà. Non, je me suis un peu enhardi. J'ai commencé à lui toucher la main et puis essayer de l'embrasser. Et puis du coup, on a fait un super bon câlin. Je me souviendrai jamais de son prénom puisqu'elle ne me l'a pas donné, mais c'était quelque chose de furtif, mais de très très fort. Et j'ai aimé ça, de faire l'amour avec l'inconnu du train. Parce que je peux pas dire que je l'ai baisé, je pense que voilà, on a plus fait l'amour que de baiser. Donc c'était au demeurant sympathique.
Et on se retrouve dans un instant, on a testé pour vous ce jeu Action Vérité.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
Et alors ce soir, nous avons testé un jeu qui se fait en société, qui s'appelle Action Vérité. Et c'est Trinidad, Fatima Imounoua et Christophe Médici qui vont le tester avec moi. Alors c'est très simple, on a d'un côté des cartes Action, de l'autre côté des cartes Vérité. Il y a un petit jeton et puis on lance le jeton. Et puis
on y jouait beaucoup dans les cours de récréation à Saint-Noua. Action
mêmes,
Vérité, c'était des actions Vérité, c'était vraiment très ludique.
Voilà,
sauf
que là évidemment c'est une version,
oui,
un
version
petit
très
peu
adulte,
moins,
ouais, un peu
moins
plus
enfin, Action Vérité. Au collège, c'était aussi pour embrasser, pour
exactement,
dire tiens,
savoir,
Action,
est-ce que tu l'aimes ou pas,
est-ce que tu aimes,
Sandrine,
est-ce que tu vas embrasser, donc c'était aussi une façon d'utiliser
c'était
le ludique
déjà sexe, hein, Brigitte,
pour avoir des secrets
déjà...
Voilà,
alors c'est évidemment c'est un jeu qui se joue à plusieurs, hein, j'imagine, pas forcément, enfin remarquez si on peut le
ou
jouer
à deux,
on peut jouer à
aussi,
deux pourquoi pas,
en couple,
pourquoi
ça peut
pas
exciter.
Alors on va commencer par Fatima. Hop, je tombe sur Action, donc je prends une carte Action, retirer 3 vêtements et changer de place avec le joueur qui est en face de vous. Alors évidemment vous n'allez pas le faire.
Retirez.
Alors moi j'aurais aimé. Si... Pourquoi on fait pas ce jeu en hiver? Parce que là, je vous assure, j'ai 3 vêtements sur moi parce que j'ai. Je retire vraiment. Je ne peux pas.
Ah c'est. Vous devez jouer Fatima. C'est le jeu.
Non c'est terrible parce que je suis très joueuse. Oui. C'est-à-dire que quand on me dit ça, là
donc
c'est la frustration terrible.
Perdu, là, alors,
j'ai
si
perdu mais
pas.
C'est terrible.
Moins
je déteste
Fatima.
Perdre.
Moins
bon Trinidad. On va faire pareil et hop je tombe sur Vérité. Donc je prends une carte Vérité. Comment c'était la première fois?
C'était bien. C'était attendu. C'était bien.
Bon, d'accord. Et puis Christophe, à vous.
Alors,
donc on va voir, on fait pareil. Hop, Vérité, pareil. Donc
Vérité.
Je prends une carte Vérité. Quelle est votre position favorite?
Alors moi je crois sincèrement que c'est la levrette. Hein.
Ah bah ça c'est bien.
J'adore.
Bien.
C'est bien un homme, alors. Il n'y a pas de doute. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que ce passage coupé et samplé, ça peut vous suivre toute votre vie. C'est-à-dire, vous êtes un alors, moi, ma position.
Oui, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je ne briguerai jamais la présidence de la République ou quoi que ce soit comme ça. Voilà. Donc, je m'en fous complètement.
En plus, il n'y a rien.
Mais c'est drôle, hors contexte.
Non, non.
Il n'y a rien de scandaleux.
Oui, puis qu'on est en pleine nuit, comme ça. Je pense à nos amis auditeurs qui doivent fantasmer. Je suis entre trois belles femmes. Les gens doivent se dire, mon Dieu, il parle de la levrette. C'est extraordinaire comme imaginaire de nuit, Fatima. Vous imaginez, les gens sur l'autoroute, là, qui partent pour les vacances, ils entendent Christophe Ménissé.
Nous sommes sur levrette.
Bon, en même temps, moi, je lis, enfin, je sais pas, je vous ai passé aussi des cartes.
Action, hein. Oui.
Je lis des cartes.
Je peux vous opposer une, moi.
J'en ai pas eu, moi.
Oui, vérité, Brigitte. Oui. Quelle est la chose la plus gênante qui vous soit arrivée pendant un acte amoureux? Elle est pas mal, celle-là. Je vous assure que c'est ce que je suis tombée, Brigitte.
Je vous fais confiance. Alors ça, c'est peut-être à l'époque où j'avais mes chiens un peu trop près de ma chambre, et quand le chien s'était mis sur le dos de mon amant qui avait commencé à lui lécher le dos. Alors c'était pas méchant du tout, mais ça avait créé un vrai traumatisme. Voilà.
Il a eu peur, en plus.
Bah, non, mais c'est des dogs allemands, quand même.
Oui, c'est ça. J'avais demandé, c'était quoi?
Ça doit faire drôle. Quand même.
Mais il y a quand même des questions où si on joue avec une femme ou un homme jaloux, la réponse, elle va nous poursuivre toute la vie. Par exemple, avec quelle personne de votre entourage aimeriez-vous beaucoup faire un trio?
Oula, alors, mais là, ça devient touché.
Et là, donc la personne va répondre, j'imagine. Ah oui, non, et là, sa femme va lui ressortir ça tout le temps. Alors, tu avais dit.
Non, mais je pense que c'est vraiment un jeu
avec des adultes équilibrés,
libertins même peut-être. Hein, parce que c'est
il y a une question. Avez-vous déjà fait l'amour avec quelqu'un du même sexe?
Moi non.
Vous non? D'accord.
Bah oui, pas de chance. Et puis quant aux cartes action, bah finalement elles sont
monogamie ou polygamie. Qu'est-ce qui vous va le mieux et pourquoi?
Pas mal ça, c'est pas mal ça.
Oui. Moi j'ai que des cartes action, alors il faut échanger des vêtements, les
action,
enlever.
C'est moins rigolo.
C'est pas mal. Cherchez dans un
quel est votre grand souhait sur le plan sexuel que vous n'auriez pas encore vécu?
J'ai fait tout ce que je veux.
Vous avez fait tout à 36 ans, c'est pas possible.
Non, parce que j'ai rien d'extraordinaire et j'aime bien quand les fantasmes restent fantasmes.
Ah, vous gardez ces fantasmes.
Enfin, en tout cas, je pense que c'est quand même pas à mettre entre toutes les mains, hein, vous êtes d'accord?
Mais pour un couple, ça peut être amusant. Mais pour un couple qui s'entend vraiment bien et puis se laisser le choix de ne pas répondre, mais quand on répond pas, on est suspect après.
Bah oui, c'est toujours la même histoire.
Quelle est la plus perverse que vous avez faite sur le plan sexuel? Donc quand je lis cette question.
Pas mal.
Oui.
C'est pas mal comme question.
Cherchez dans un rayon de 5 mètres un objet que vous pourriez utiliser pendant les jeux de l'amour et montrer comment vous feriez.
Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une question à
l'autocollant RMC.
Moi, j'ai vu l'écran d'ordinateur, je me suis dit, oh, c'est compliqué.
Bon, moi j'ai tout bêtement un stylo, hein. On peut toujours faire quelque
c'est
chose avec un stylo.
Avec un stylo.
Mais l'écran RMC, no way.
Juste votre zone la plus érogène, hein. C'est pas mal ça.
Bon, enfin, en tout cas, vous êtes d'accord, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est quand même pour des gens relativement libérés, initiés.
Et risqué pour un couple, parce que les questions.
Moi je suis d'accord. Il y a des questions qui peuvent être très gênantes et vous avez raison, si du coup on n'y répond pas, c'est encore plus suspect.
C'est louche. Ça va être retourné contre eux. Ah oui, tu as dit, hein, c'est l'ami, c'est celle, tu l'avais dit pour le trio, cette amie-là, tu te souviens? Imaginez.
Oui, on va lui resservir à toutes les sauces, hein. C'est le cas de le dire. Bon, en tout cas, c'est un jeu qui s'appelle Action ou Vérité. Si ça vous intéresse, il y a 69 questions, évidemment.
Ah oui.
69 challenges également. Allez, on va parler du Wikisex maintenant. Vous savez, c'est sur rmc.fr et vous y retrouvez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur vos problèmes de sexualité. Et puis, on va écouter Jimmy qui va nous parler de relations à distance. Mais d'abord, c'est Magali qui a enchaîné les périodes de disputes et de réconciliation avec son partenaire. On avait essayé de l'aider. J'étais avec Bruno Martin.
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Lie Night Show.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous appelle, je suis avec mon ami depuis 2 ans et demi.
Oui.
Je me suis mis en couple avec lui juste après avoir quitté le papa de mes enfants. En fait, à la base, on s'est rencontrés sur un site libertin. Et donc, c'est parti peut-être un petit peu bancal, mais c'était pas parti pour être sérieux. Excusez-moi, j'ai essoufflé, j'ai couru.
Mais je vous en fous pas.
Et depuis 2 ans et demi, ben, on va de dispute en réconciliation, dispute, réconciliation. Bon, il faut savoir que les disputes sont assez violentes. Et les réconciliations, bah, elles sont toujours parfaites, quoi. On s'aime beaucoup, beaucoup.
Vous voulez dire donc toujours sexuelles, les réconciliations, hein, c'est ça?
Alors, pas toujours, hein.
Non, d'accord.
C'est pas trop un garçon comme ça. Non, on s'est rencontré sur un site libertin, mais c'est quelqu'un de très sérieux, justement. Enfin, bizarrement, c'est... Mm-hmm. C'est ambivalent, mais c'est vrai, quoi. Donc, non, pas forcément. On se réconcilie au bout de quelques jours, ça prend souvent beaucoup de temps. Et puis bon, après, c'est reparti, mais bon, les disputes, c'est usant.
Et vous vous disputez pour des broutilles, j'imagine. Il n'y a pas quelque chose de récurrent, c'est
tout. Il y a quelque chose de récurrent, c'est que moi, j'ai pas du tout confiance en moi. Mmh. Et que lui, il est assez exigeant, paradoxalement. Bon, donc c'est souvent ma confiance en moi, et puis on est complètement différents. Lui, il est resté 10 ans tout seul, moi j'ai 2 enfants. Lui, il a une grande famille très soudée, moi
j'ai
que ma mère.
Mais comment ça part, la dispute? C'est vous qui lui reprochez de ne pas avoir été suffisamment rassurant? C'est lui qui vous...
C'est vrai que ouais, ça part souvent de ça.
C'est ça, hein?
Ouais, ça part souvent de... Je lui dis, ah, tu me dis pas ci ou tu me dis pas là. Enfin, bon,
des reproches, quoi.
Ouais, un petit peu. Ouais,
et comme il se sent agressé, du coup, il vous agresse et ça monte crescendo.
Voilà, lui reste, c'est ça, il se replie complètement, lui, quand on se dispute. Et moi, comme je vois qu'il se replie, ben, je m'énerve.
Vous l'agressez encore plus, oui, pour le faire réagir.
Et ça monte. Et... Par contre, moi, après, je me calme très, très vite. Mm-hmm. Et puis lui, ben, après,
il boude. Vraiment...
Mais là, on voit encore que la question de la communication est au centre de votre problème. Hein. C'est-à-dire que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, d'avoir envie de ce que vous voulez. Mais la façon de lui faire comprendre, c'est certainement la pire qui soit. Parce qu'un homme, vous savez, depuis qu'on est tout petit, on est éduqué pour être compétent dans quelque chose. Alors quand une femme nous dit « tu n'as pas fait ça, tu
t'es
n'es
nul.
Pas capable, t'es nul », ouais. on comprend « tu n'es pas compétent ». Alors que si vous nous disiez tout simplement, par exemple là, « j'aimerais tellement que tu me rassures,
j'ai
tellement besoin de ceci ou cela », là on va se sentir investi d'un super pouvoir, on va tout vous prouver pour que ce soit ce que vous attendiez. Et franchement, la façon de le dire est plus importante que ce que vous dites au fond. Et ça, il faut vous attacher à ce détail et vous allez voir que vous aurez des résultats complètement différents, sans changer vos sentiments d'incertitude, de manque de confiance, etc. Mais si vous lui dites « j'aimerais ça de toi, j'aime tellement quand tu », vous allez voir que les résultats sont différents.
Oui, et puis Magali, moi j'ai quand même entendu que vous l'avez rencontré tout de suite après votre rupture, donc il y a aussi un peu de ménage à faire dans votre tête. Moi je constate souvent que lorsque on a trop vite repris un partenaire et qu'on n'a pas complètement fait la paix avec le partenaire d'avant, si je puis dire, bah c'est le nouveau qui paye un peu les coups cassés.
Hein. Les incertitudes, les insécurités,
oui,
etc.
Oui.
Et on est hyper vigilant à ce moment-là, on guette le défaut.
Alors, bien sûr, les conseils de Bruno Martin sont bons, hein, Magali, il faut essayer de les suivre. Mais je crois qu'il faut aussi qu'entre vous, moi c'est le conseil que je donne, hein, dans des couples qui se disputent beaucoup pour des choses finalement tout le temps récurrentes, il faut que vous trouviez un mot qui, quand l'un des deux le prononce, ben ça met clos tout de suite aux réflexions, au débat éventuel, parce que débat c'est presque un mot trop positif par rapport. Alors je ne sais pas, mais voyez, tous les deux, mettez-vous d'accord, ben quand on prononce, je ne sais pas, enfin vous inventez votre mot à vous, silence. On n'a plus le droit de se parler et ça parfois ça marche. Hein.
Différer par ce mot et attendre que le volcan émotionnel redescende et en reparler tranquillement entre grandes personnes.
Voilà, parce que quand vous l'agressez comme ça, il est évident que vous êtes submergé par vos émotions. Ouais. Et lui, le conseil qu'on peut lui donner, il n'est pas à l'écoute, mais vous pouvez lui donner ce conseil-là. Quand vous commencez à monter en pression, il sort de la pièce, il s'en va. Hein, et vous allez vous retrouver toute seule et bah, votre volcan va avoir une éruption, si je puis dire, mais c'est pas lui qui recevra la lave sur le dos.
Et il faut en parler tranquillement. Moi j'aime bien le mot entre grandes personnes et entre adultes, avec ses idées, en respectant l'autre, tout en se respectant soi.
Merci Magali, en tout cas, de votre appel. Jimmy, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 28 ans, vous êtes rencontré très jeune, hein?
Voilà. Bon, déjà, je tenais à vous être franc avec vous. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Martin.
Bonjour.
Ma femme vous écoute toutes les après-midi. Donc, j'ai peut-être, je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai voulu vous appeler pour discuter de mon problème. Voilà, j'ai 28 ans, j'ai rencontré ma femme, on avait 14, 16 ans, première copine, pareil, premier copain.
Bien sûr, oui.
Voilà, donc moi, je suis mécano de formation, donc j'ai travaillé nombreuses années en mécanique, pendant 2-3 ans. Et ensuite, bon, j'ai créé une société de transport, de petites livraisons de colis. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai été amené pendant 2 ans à développer cette affaire. J'avais 21 ans, je vous parle, j'ai 28 ans. Et bon, c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai été amené à développer cette affaire. Et aujourd'hui,
à travailler beaucoup, bien sûr, oui.
Voilà,
À vous investir, en tout cas, beaucoup.
Si vous voulez, un petit peu à l'ancienne, je suis jeune, mais j'ai une vision à l'ancienne. Pour moi, le bonheur, c'était un petit peu comme nos grands-parents, si vous voulez. Seulement à écouter nos grands-mères, il y avait des choses à arranger au niveau de nos grands-pères, si vous voulez. Voilà. Donc j'ai essayé de garder ces mêmes valeurs tout en étant au goût du jour, si vous voulez, en tant qu'homme, en tant que avec toutes ces libertés à l'heure actuelle et tout. Donc c'est vrai que moi je me suis concentré beaucoup au travail et à la famille en pensant que c'était de l'acquis, en pensant que voilà, ça allait être exceptionnel toute ma vie. Et au final, ça fait 11 ans, on a une petite qui a 3 ans et demi, une société florissante de 15 ouvriers.
Mais alors qu'est-ce qui va pas pour elle ?
C'est-à-dire que si vous voulez, comme je pense moi, hein, mais bon, comme on s'est rencontrés à l'âge de 14 ans, on a grandi ensemble, et c'est vrai qu'on est passé d'ado à peut-être adulte.
Oui, oui, on évolue beaucoup hein, entre 14 ans et 30 ans.
On a énormément évolué, elle de son côté, moi du mien, moi me rapprochant de mes valeurs et de ce que j'imagine dans ma tête des biens, et puis elle, la même chose, je pense, seulement, bon, on travaille ensemble aussi, c'est ce qui arrange pas la chose aussi. Ça fait 7 ans qu'on a cette société.
Mais qu'est-ce qui va pas pour elle, puisque vous me dites que visiblement vous êtes.
Qu'est-ce qui va pas pour nous? Eh bien, c'est-à-dire que là, le fossé s'est trop creusé. Elle, si vous voulez, elle préfère le shopping, elle préfère les grandes villes, elle préfère, je sais pas, plein de choses. On est allé voir un conseiller qui nous a dit que notre couple était incompatible. C'est-à-dire que moi, il a senti que j'avais ça de tout jeune, c'est-à-dire que j'avais envie de créer avec l'esprit famille derrière, vous voyez. Et puis elle, pas trop cet esprit de famille et non plus au niveau du travail. Voilà, si on ne s'était pas rencontré jeune...
Oui, enfin, moi je me méfie quand même, encore une fois, d'un thérapeute de couple qui vous dit que vous n'êtes pas compatible. C'est pas lui qui va décider.
J'ai trouvé bizarre, parce qu'au bout de trois... Parce que moi, la phrase que j'ai dit qui a fait un petit peu s'énerver le psy, c'est que moi, j'ai dit à l'heure actuelle... Si je rencontrais ma femme à l'heure actuelle, je ne serais pas avec. Voilà. Parce que je trouve qu'elle a énormément changé. On avait des convictions ensemble et tout s'éloigne, tout se creuse.
Mais Jimmy, elle a certainement changé, mais vous avez certainement évolué. Alors peut-être que vous vous êtes renforcé dans vos valeurs familiales et vos valeurs de patriarche, hein, en quelque sorte.
Ouais.
Bon, mais il faut aussi que vous acceptiez que vous aussi, vous avez évolué. Donc si vous avez évolué tous les deux dans des directions différentes, en s'écartant, il faut voir si vous avez envie de vous retrouver ou si en effet... vous êtes d'accord avec le psy et que vous n'avez plus rien à faire ensemble, mais encore une fois, c'est vous qui allez décider, c'est pas le psy à votre place.
Mais non, c'est pour ça que bon, moi, j'en ai parlé à ma femme, et bon, j'ai décidé d'arrêter ce psy parce qu'on ne trouvait pas.
Bien sûr.
Réellement, au contraire, pendant le peu de temps qu'on a passé, c'est vrai que ça nous a fait remettre en question, ça c'est sûr. J'ai vu certains points que je voyais pas avant et elle la même chose, mais si vous voulez le quotidien à l'heure actuelle ne change pas, c'est-à-dire que si vous voulez moi je reproche plein de choses et elle me reproche plein de choses, seulement ce qu'elle me reproche je trouve pas ça.
Ouais, on base pas le couple sur des reproches de toute façon, ça c'est sûr.
On peut avoir des demandes, hein. C'est-à-dire que bon, si vous êtes allé voir un psy tous les deux, c'est déjà que certainement vous avez envie d'améliorer votre couple, sinon ça sert à rien du tout. Ouais. Donc vous avez le même but, c'est déjà un bon point de départ. Et ensuite, je te reproche, tu me reproches, c'est certain que là, vous allez pas vous rapprocher avec des reproches. Par contre, vous pouvez attendre quelque chose de l'autre et elle peut attendre quelque chose de vous. Et c'est les attentes des uns et des autres qui ont bougé, tout simplement. Et on peut parler de ces attentes. Vous avez été un peu victime de la crise de la vingtaine où tous les hommes cherchent à faire leur trou hein, dans le monde social, professionnel. Et puis elle, petit à petit, ben, elle a pris de la maturité. Puis elle revendique aussi une autre existence.
Et puis Jimmy, moi j'ai envie de vous dire une chose. Vous êtes travailleur, vous avez envie de gagner de l'argent, c'est bien. Mais c'est pour votre couple et votre enfant. Après tout, si elle a envie d'être un peu plus superficielle et de faire du shopping, donnez-lui des limites,
mais ça peut
se réguler.
Ouais, mais bon, si vous voulez que je vous parle, elle avait 2 400 € de paye, vous voyez, je l'avais mise cadre dans ma société.
Oui.
Alors que réellement, voilà, on a fait le calcul hier, parce que c'est vrai que j'y reproche de pas travailler dans la société, et bon, on a fait un calcul hier, sur 4 mois, vous voyez, elle a travaillé 3 semaines.
Ben, il faut réguler les choses plus.
Ça fait
plus...
7 ans que c'est comme ça, vous voyez.
Oui, mais vous avez Jimmy, si c'est un problème de vous avez l'impression d'en faire trop et qu'elle n'en fait pas assez, hein, c'est un peu ce que j'entends. Mais ça peut se discuter très tranquillement. Vous remettez des bases plus strictes et vous y tenez. Mais vous cessez de vous bagarrer pour des choses qui sont finalement assez matérielles. Le matériel, je dirais que quelque part, c'est plus facile à réguler dans un coup. Que lorsque c'est des questions de sentiments, tu ne me comprends pas ou tu ne vois pas ma tristesse ou je ne sais quoi d'autre. Donc là, franchement, ou de sexe d'ailleurs. Là, franchement, je crois que vous pouvez de manière très concrète réguler les choses et repartir ensemble.
Elle serait femme au foyer, vous lui donneriez les 2 400 € sans qu'elle vienne une seule heure. Hein. Si vous étiez par exemple parti sur ce principe-là, peut-être qu'il faut juste qu'elle trouve un travail aussi à l'extérieur pour ne pas brouiller votre intimité qui est complètement engloutie dans la société. Il y a plein de petites pistes simples sans parler d'incompatibilité aujourd'hui. C'est un acte de démission, l'incompatibilité. C'est j'arrive pas à vous soigner, donc je vous déclare incompatible. Ben, peut-être que vous l'êtes compatible. Il faut que vous soyez, vous, le maître de votre destin.
Et attention, Jimmy, de pas vouloir absolument être le seul à détenir le pouvoir, parce que je crois qu'il y a un petit peu une lutte de pouvoir aussi dans votre histoire. Mais bon. En tout cas, ça me semble pouvoir se résoudre avec un peu plus de bon sens. Dans un instant, notre love coaching de ce soir. Comment on évoque un besoin de plus de liberté à son partenaire?
RMC, c'est le Late Night Show.